nous sommes très contents de voir que vous êtes venus si nombreux pour nous entendre.
Qui êtes-vous ?
Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace.
Je suis Iron Man.
Docteur King Schultz, et voici mon cheval Fritz.
Je suis ton père.
Yippie-kaye, pauvre con.
Non mais oh ! Comment tu parles de ton père ?
Mais d'où est-ce que vous sortez ?
C'est à moi que tu parles ?
Non mais attendez, j'ai pas dit ça, je suis pas en train d'essayer de vous embrouiller là.
Que la force soit avec vous.
Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise.
Splendid !
Bonsoir à toutes et à tous les cinéphilous, nous sommes de retour après une très très longue absence. Mais aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour parler de films, d'anecdotes de films, bien sûr. Alors, installez-vous confortablement au fond de votre siège, un peu de pop-corn, et c'est parti!
Je passe mon temps à m'inquiéter, à me démener pour toi, à te défendre! Et en retour, j'ai quoi? J'ai une putain de gueule qui me regarde! Une gueule qui déborde de dédain, de ressentiment, qui a toujours l'air de s'emmerder!
Vous venez d'entendre une citation du film Hérédité que nous analyserons plus tard. Mais tout d'abord, nous vous présenterons des films en fin d'affiche, à voir ou à ne pas voir, puis on parlera des films qui viennent de sortir avant de nous pencher sur l'analyse de ce classique du cinéma d'horreur, Hérédité. Nous terminerons par l'actualité du grand et du petit écran.
Commençons avec les films en fin d'affiche. Nous avons tout d'abord Bones and All, un road trip romantique entre deux cannibales dans un univers cinématographique où le gore et l'horreur sont totalement banalisés. Et en prime et petit chou, Timothy Chalamet torse nu.
Et puis un film français qui fait du bien, Le Torrent de Anne Leny. On y retrouve un très bon José Garcia dans un scénario sympa en mode thriller.
Ensuite, un film d'animation, Samurai Academy. Drôle et épique pour les enfants, subtil et grinçant pour les plus grands. Film que je suis d'ailleurs allé voir tout seul à 10h du mat, à côté de mamie et de son petit-fils qui m'ont beaucoup, beaucoup jugé.
Tu pouvais peut-être choper une nouvelle famille.
Je te jure, j'ai essayé, ils n'ont pas voulu.
Moi non plus, j'aurais pas voulu. Et pour finir, Novembre. Une ambiance lourde, un film chargé de pression et d'histoire. Une œuvre magnifique malgré une fin quelque peu maladroite. Parlons maintenant des films à l'affiche.
James Cameron, tu nous as mijoté ce bon petit plat depuis 13 ans. Plus d'une décennie le sépare de son premier opus. Nous parlons bien sûr de Avatar 2, The Way of Water. A-t-il rempli toutes ses attentes ?
Oh que oui ! Mon téléphone est verrouillé. On a là un film, que dis-je ? Une œuvre de beauté qui se regarde plutôt qu'il ne se réfléchit. Et ça fait du bien.
Personnellement, j'ai eu l'impression de voir un film qui nous vient tout droit du futur. Comme s'il venait pas de notre époque cinématographique en fait.
Et pour ceux qui se poseraient la question, rassurez-vous. Même 13 ans après, James Cameron a su remettre ses spectateurs dans le bain, et ce dès les premières minutes, s'ouvrant sur l'immense beauté de Pandora.
Quant au scénario, il est simple et efficace. Il est légèrement inspiré du premier film, mais ici son potentiel est beaucoup mieux exploité. Ce qui nous donne 3h12 de film sans aucune longueur. Alors certes, il y a de tout petits défauts scénaristiques, certains axes ou personnages auraient pu être mieux développés, mais espérons que cela soit simplement voulu et serve de porte ouverte pour la suite.
Et la musique, une véritable valise qui nous emmène en voyage sur Pandore. Elle accompagne chaque scène, lieu et personnage à l'écran. Le compositeur, je vais essayer de pas écorcher son nom, Simon Franklin, a fait un très bon boulot et a consolidé la création de l'univers musical de Avatar.
Il est temps d'aborder la force colossale de ce film, les images. L'esthétique visuelle sert d'ossature au film autour de laquelle viennent se greffer tous les autres éléments. La faune et la flore sont constamment mis au premier plan et ce, dès le début du film.
Silence, ça pousse. La CGI utilisée pour réaliser ces plans de forêt, de montagnes et d'océans qui ouvrent le film nous en met plein les yeux. Et c'est une claque visuelle que l'on se prend tout au long de ces 3 heures de film.
La colorimétrie est sublime et assiste l'image dans cette ode à la beauté. Car oui, il y a de l'action et des enjeux, mais l'objectif principal de Cameron est de nous montrer la pure beauté de son univers.
Parlons de l'eau, car nous sommes avec un avatar, The Way of Water. Oui, je l'ai dit avec l'accent anglais.
C'est beau.
Oui, les scènes sous-marines sont terriblement réalistes et absolument incroyables. Chaque brasse effectuée par les personnages dans ce magnifique monde aquatique est ressentie par le spectateur tant la fluidité de l'image est présente.
Je te jure, j'avais l'impression de me noyer à chaque fois qu'on voyait un Tolkien. Pour clore, James Cameron fait preuve d'un fantastique imaginaire, en créant l'entièreté d'un peuple et son écosystème, allant même jusqu'à inventer et développer un vrai langage Na'vi. Il fait preuve d'une véritable intelligence de l'image et du détail. Chaque plan est pensé et réfléchi pour en tirer le meilleur.
Et je suis d'ailleurs fasciné par les créatures imaginées pour ce film. Que ce soit faune ou flore, elles sont simplement merveilleuses, et chacune d'elles met des étoiles dans les yeux à chaque apparition à l'écran.
Et d'ailleurs, pour confirmer l'importance du détail chez James Cameron, nous pouvons raconter une petite anecdote. Père Castor, raconte-nous une histoire, on y va. L'auteur a écrit un script complet sur les événements qui se sont déroulés entre Avatar 1 et Avatar 2, juste pour les équipes qui travaillent sur le film, afin qu'elles puissent au mieux s'imprégner de l'histoire des personnages. Il a donc tout simplement écrit un scénario complet qui ne sortira jamais au cinéma, juste pour que chaque détail soit pris en compte dans les films.
Poursuivons avec le nouvel ovni de Quentin Dupieux. Fumé fait tousser. On y retrouve la Tabac Force contrainte par leur capitaine Didier, un rat baveur, de prendre des vacances pour retrouver leur cohésion de groupe.
Le film tournera autour de plusieurs histoires racontées par les membres de cette équipe de super-héros avant d'être interrompu par le maléfique Lézardin, campé par Benoît Poulvorde, qui souhaite anéantir la planète.
On voit ici une petite parodie à ceux qui pensent au complot des...
reptiliens.
Exactement, on vous voit venir. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, ou plutôt pas tellement. Ce film est bel et bien réalisé par Quentin Dupieux avec sa folie et son absurdité habituelle. Vous passerez par le rire, les larmes, la remise en question, l'incompréhension. Bref, de véritables montagnes russes.
Le réalisateur fait toujours part d'une grande réflexion dans les plans qu'il tourne, dans le texte prononcé par les personnages, et fait toujours en sorte de nous surprendre là où on s'y attend le moins.
Monsieur Dupieux nous régale avec un casting 3 étoiles. Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi, Anaïs de Moustier et Oulaya Amamra, camp la Tabac Force. Parodie d'une équipe à la Power Rangers et dirigée par le capitaine Didier, doublé par Alain Chabat, cette légende.
Mais cela ne s'arrête pas là, car nous y retrouvons aussi Adèle Exarchopoulos, Blanche Gardin, Jérôme Niel, Benoît Poulvorde ou encore David Marseille et Grégoire Ludig, connus bien sûr pour leur duo Le Palmachot. Et voilà un buffet bien garni qui vous promet une régalade en bonne et due forme.
On est sur un format assez court, 1h17, qui sert la dynamique et l'enchaînement des scènes. Fume et fait tousser est un beau succès de la carrière de Quentin Dupieux. Notons qu'il reste plus accessible que ses autres films qui sont vraiment complexes. Il reste néanmoins très particulier avec la patte de l'auteur. De là à aller le voir en famille, je suis pas sûr.
Quand on était dans la salle, d'ailleurs, il y avait deux rangs devant, là, une famille. Les gosses, je sais pas comment ils ont fait pour comprendre le film.
Moi, je pense qu'ils étaient contents de voir un rat baveur.
Je te jure, par contre, les parents, ils devaient être flippés pour certaines scènes qui sont, faut le prévenir, pas pour tout public. Je
les voyais
jeter des regards furtifs sur la gauche. Toujours est-il que ce film prouve la capacité française à réaliser du grand et bon cinéma et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir plusieurs centaines de millions d'euros de budget pour réaliser un bon film.
Nous vous laissons avec une petite interlude musicale, The Wit, de Hans Zimmer, tiré du film Gladiator.
pour finir sur les films à l'affiche, Black Panther, Wakanda Forever, Than Ever, Than Ever. Film toujours réalisé par Ryan Coogler, comme le premier opus, qui permet de clôturer correctement la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Il rattrape par ailleurs la catastrophe, et je pèse mes mots, de Thor 4 Love and Thunder, le précédent film Marvel. On s'étendra pas sur le sujet, mais clairement, c'était un échec cuisant.
Un échec brûlé même. Ici, Black Panther nous remet en tête que Marvel, c'est beau et c'est bon. Le film traduit l'adaptation du Wakanda après la mort de son monarque, le roi T'Challa, aka Black Panther. Il va montrer comment sa sœur, Shuri, surmonte le deuil et affronte ses responsabilités.
Et en parallèle, nous découvrirons le peuple sous-marin du roi Namor, principal antagoniste du film qui proposera une alliance avec le Wakanda, ou en cas de refus, sa totale destruction. Est-ce que c'est bon pour vous ?
Le scénario est clair, plaisant, avec une pointe de politique. Il dénonce pas mal de trucs sur notre société, notamment l'appropriation des ressources des pays émergents par les puissances mondiales.
À part son côté politique, le film explore les thèmes de la relation mère-fille et de la vengeance, et c'est très jouissif à voir chez Marvel. On y découvre une certaine violence dans les combats, et autant vous dire que ça aussi, c'est très jouissif.
Bien entendu, il y a quelques points négatifs. Le film dure 2h40 et on y trouve de toutes petites longueurs. C'est du détail, mais tout de même. On y trouve aussi un axe du scénario qui semble soit trop peu exploité, soit inutile. À part ça, Marvel nous offre ici une belle réussite dans un film baigné de tradition et avec un humour finement dosé.
Abordons maintenant le sujet de la musique qui reste dans la continuité du premier film, signant encore une véritable identité de l'univers wakandais. On pourra aussi y noter les chants du peuple de Talokan menés par Namor, qui est clairement inspiré des chants hypnotiques des sirènes. Par ses musiques, Ryan Coogler nous plonge dans une ambiance très très proche de celle de l'horreur. Voilà en direct pour vous une reconstitution de ces chants de sirènes. En allant le voir, vous y découvrirez de nouveaux personnages, dont Namor qui, sans spoiler, est un personnage qui s'inscrira très très vite dans le top 10 de vos persos Marvel préférés. Il est fantastiquement bien réussi, cruel et nuancé à la fois, faisant partie de ces méchants qui ont une idéologie derrière la tête, ce qui les rend attachants malgré les horreurs qu'ils sont capables de commettre.
D'ailleurs, tu savais que dans les comics, ils lui ont coupé les ailes à ses chevilles ?
Exactement, ils ont fini par juger que c'était ridicule, alors que dans le film, c'est clairement un des éléments qui lui donne le plus de flow.
On y voit aussi de très bonnes scènes de combat, avec une belle utilisation du ralenti que l'on retrouve tout au long du film, trempant parfois dans une brutalité étonnante et plaisante. Le film a une grosse charge émotionnelle, ce qui en fait un sacré gros morceau à digérer. Mais c'est une bonne chose.
Pour les fans de l'univers, vous serez, je pense, plus que touchés par le magnifique hommage à Chadwick Boseman, l'acteur qui interprétait Black Panther jusqu'en 2020, année de son décès malheureusement dû à un cancer.
Les hommages sont beaux, et le flambeau de Black Panther est passé avec succès et respect.
Donc foncez le voir en salle parce que je pense qu'il remplit globalement toutes les attentes. On se retrouve pour l'analyse du film Hérédité après une petite pause musicale, comme A Little Bit Closer de Jay and the Americans. In a little cafe, just the other side of the border. She was sitting there giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way. She belonged to Batman Jose. And I knew, yes I knew, I should leave when I heard her say, hey, come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so
cafe was empty. Then I heard Jose say, man, you know you're in trouble plenty. So I dropped my drink from my hand and through the window I ran. And as I rode away, I could hear her say to Jose, yeah, come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone and the night is so long.
D'ailleurs, vous saviez que la musique que vous veniez d'entendre devait passer dans la première émission ? En fait, on s'est juste trompé de Come a Little Bit Closer.
On connaissait pas du tout celle qui est passée la fois dernière, mais elle était très cool aussi, donc on l'a laissée.
Quoi qu'il en soit, on passe à l'analyse du film Hérédité. Ce film est le premier long métrage d'Ari Aster, et Colin Stetson est le compositeur qui est derrière les musiques de ce film. Plus récemment, il a travaillé sur Le Menu.
Mauvais film. Pour résumer Hérédité, Charlie est une petite fille atteinte de troubles psychologiques. Alors que les Graham sont en deuil de la mort de la grand-mère, la famille tente une reconstruction de leur vie parsemée de petites découvertes étranges sur leur héritage familial.
Puis la mort brutale et inattendue de Charlie amène la famille à subir un double deuil. Arrive alors une oscillation entre folie et paranormal. Annie, la mère, mène alors une enquête sur sa famille puis se met à communiquer avec les esprits tentant de parler avec sa fille décédée. Elle développe alors une angoisse jusqu'à l'explosion de sa folie.
Le film plonge alors dans l'horreur et le gore avec des scènes d'automutilation, de possession, de vision. On y découvre alors l'entité Paimon que la grand-mère tentait déjà de faire renaître à travers le corps d'un membre de sa famille, d'où l'importance dans le film de cette notion d'hérédité. Le démon finit alors par renaître en Peter, après une scène magistrale de suicide de la mère qui se découpe la tête.
Très original.
Et très joyeux.
Horreur psychologique, mais surtout véritable horreur, sont les points clés du film. Il n'y a aucun jumpscare, et le film ne fait que monter en crescendo avant l'apothéose à l'image d'un rituel.
L'horreur dans ce film est extrêmement intéressante. Il y a simplement une scène avec un plateau de Ouija qui est un peu un cliché du film d'horreur. À part ça, la notion d'horreur innove. Par exemple, la scène de mort de Charlie. Peter conduit la voiture, Charlie est en train de faire une crise de réaction allergique, elle dépasse sa tête de la voiture et elle se fait tout simplement décapiter par un poteau. Le bruit d'arrachement de sa tête après l'impact avec le poteau restera à jamais gravé dans ma mémoire. Tout le reste de la scène se joue du point de vue de Peter qui conduit la voiture et qui regarde dans son rétroviseur, n'apercevant que le corps sans vie de sa sœur sur la banquette arrière. Tout simplement horrible, mais extrêmement bien réussi.
Ah, il ne peut que s'en vouloir, de plus il accélérait pour essayer de sauver sa sœur et au final, il la tue.
On est en train de foutre une ambiance, mais démentielle.
La prochaine fois on a l'analyse, oui. La scène de possession de la mère est typiquement le genre de moment qui démontre l'horreur, non sur le jumpscare, mais plutôt sur l'insoutenable. J'en ai clairement les poils qui s'hérissent rien que d'y repenser, et en effet, la surprise n'est pas toujours nécessaire pour créer la peur.
La scène avec la possession du fils Peter est tout aussi ignoble. Alors que le démon Paimon arrive enfin à entrer dans l'esprit de ce jeune homme, il le démontre en le paralysant et en lui faisant finalement s'écraser le visage contre sa table. Le démon entre enfin en gestation dans son prochain avatar.
Mais pas sur Pandore cette fois-ci.
Ah non, ça c'est sûr.
Puis, la scène finale, celle de l'ascension ultime. Elle nous démontre là tout le génie tordu du réalisateur avec une musique légère mais qui apporte une ambiance contradictoire. Alors que c'est une réelle descente aux enfers, la musique semble, elle, représenter la naissance et le sommet radieux de l'accomplissement de cette entité démoniaque et par conséquent de la secte.
De manière générale, les acteurs sont dans un jeu très juste. En particulier Alex Wolff qui nous fait réellement ressentir la descente aux enfers justement de son personnage alors que son monde s'écroule autour de lui. L'actrice interprétant Charlie joue également très bien ce rôle de jeune fille marginale dont le comportement nous laisse comprendre que quelque chose cloche. Ses constants claquements de langue contre le palais posent une rythmique lente dès le début du film, mais peut également nous faire penser à l'horloge qui tourne, et je trouve ce choix et son exécution très intéressant.
L'actrice qui joue la mère incarne vraiment bien cette idée de l'espoir tournant à la folie avant de se laisser complètement abandonner à son destin tragique et fatal.
Les plans sont réfléchis et intelligents, ce qui est mine de rien assez rare dans les films d'horreur. Les plans fixes sont inquiétants, et cela constitue une horreur très particulière et appréciable dans ce film.
Le film est rempli de symboliques qui viennent appuyer cette ambiance morbide, mais également le fait que le destin des personnages soit déjà tout tracé.
On a au début du film la tête d'un oiseau coupé qui prédit l'accident de Charlie, mais aussi le symbole de Paimon sur le poteau contre lequel la jeune fille perdra la tête. Alors oui, tout le monde meurt, c'est triste, mais le film est parfaitement ficelé. Tous les éléments se passent comme prévu depuis le début, et on ne sait pas si c'est la grand-mère ou Paimon qui est derrière cette terrible mise en scène. Pourtant, tous les indices sont donnés petit à petit. Le fait que la grand-mère souhaitait un garçon à la place de Charlie, qu'elle tenait à lui donner le sein, ou même l'apparition, comme par hasard, d'une ancienne amie de la grand-mère qui fait également partie de la secte. Tous les éléments sont mis en place et se relient au dernier moment, révélant une fin finement préparée.
On dirait un bon plan.
C'est Paimon qui est en train de me posséder.
Qu'il fasse vite. Mais il y a également un symbole de renaissance et de l'ascension par le rituel. Lorsque Peter monte dans le grenier, il découvre le cadavre de sa grand-mère et sa mère s'y suicide. Très joyeux encore une fois. Et bizarrement, elle se suicide en se coupant la tête. On comprend alors que l'œuvre de Paimon est presque à son apogée. L'idée du rituel est récurrente. Elle rythme les films de Ari Aster, notamment dans ses courts-métrages et dans son dernier gros film, Midsommar.
D'ailleurs, ce sont les mêmes producteurs qui ont produit The Witch, dans lequel on retrouve aussi ces idées de rituels.
En tout cas, on remarque un réel décalage dans ce film Hérédité qui semble être pour le coup une vraie démonstration de force par Ari Aster, qui est déjà à son apogée dans sa première longue création totalement réussie.
La tension dans laquelle le film nous plonge est réellement palpable. Du début à la fin, on peut y ressentir du malaise, de la gêne, de l'horreur, et même du dégoût. Et étonnamment, contrairement à tous les autres films d'horreur, ou du moins la plupart qu'on ait pu voir, celui-ci n'est pas téléphoné. La fin est même très surprenante car c'est le démon qui gagne.
Alors oui, on va vous voir venir. Il n'y a pas de jumpscare ? Mon Dieu ! Mais comment est-ce qu'ils font pour faire peur ? Je vous rappelle qu'à l'époque, Shining, ça faisait peur et pourtant pas de jumpscare.
Mon humble avis personnel, c'est que les meilleurs films d'horreur sont ceux réalisés sans screamer, justement. Parce que c'est l'histoire, c'est le scénario qui est mis avant tout en place, et ils arrivent à créer une peur qui n'est pas faite que pendant la nuit dans une chambre avec une figure qui apparaît d'un coup, mais c'est vraiment une ambiance angoissante qui est mise en place. Alors allez vous nourrir de ce classique d'horreur, et tout de suite.
Oui,
voilà.
Tout de suite.
Maintenant.
Allez-y.
Arrêtez l'émission, allez-y. Arrêtez d'écouter, allez regarder Hérédité.
Fourchette, couteau, finissez l'émission quand même avant et après mangez.
Voilà, c'est bon, c'est bien. On voulait sur une petite interlude musicale, Two Princes, Spin Doctors.
On va vous mettre la musique.
Now, your mother, him.
Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette émission. Des larmes de sel coulent sur mes joues. Mais passons maintenant à l'actualité des grands et petits écrans. Parlons tout d'abord de la sortie sur Netflix de Glass Onion, que je n'ai personnellement pas encore vu, mais qui est la suite de À couteau tiré, qui était sorti également sur Netflix il y a quelques temps, et qui était un film incroyablement bien réalisé dans l'univers Cluedo film d'enquête avec Daniel Craig, et le deuxième promet d'être exceptionnel.
Le Special Holidays Guardian of the Galaxy, qui est un très joli film à voir en famille et qui remet une petite touche de James Gunn dans le MCU.
Disponible sur Disney+, et seulement 50 minutes, donc très court et très plaisant à regarder. Deux anecdotes maintenant sympathiques que l'on peut vous raconter à propos de Avatar 2. Tout d'abord, beaucoup de séances ont été annulées au Japon, tout simplement parce que la qualité du film et les technologies 3D utilisées faisaient littéralement cracher les cinémas japonais.
Et pour continuer sur Avatar 2, Kate Winslet, qui avait des scènes sous-marines, a réussi à retenir sa respiration pendant plus de 7 minutes sous l'eau. Elle voulait battre son record personnel, et c'est chose faite. D'ailleurs, petite pensée à Jack qui a coulé alors qu'elle savait retenir sa respiration sous l'eau pendant plus de 7 minutes du coup.
On peut évoquer la sortie d'une nouvelle encore plateforme de streaming qui sera Paramount+, reliée avec Canal+, et qui fera donc apparaître de nouvelles créations originales qui peuvent être très intéressantes à suivre. Petite anecdote sympathique, dans la ville de Bernay, le cinéma Le Rex a fermé à cause de l'ouverture du Multirex. Mais pour cette soirée de fermeture, le directeur a décidé que les spectateurs pourraient repartir avec un fauteuil de cinéma. Ce qui est assez original, mais très sympathique.
Mais pourquoi j'étais pas au courant ? Alors, pour les bandes annonces qui viennent de sortir, nous avons tout d'abord celle de Oppenheimer. Ce film de Christopher Nolan promet de grandes choses.
Qui sortira, on vous le rappelle, début d'année 2023. On a aussi Indiana Jones, le nouveau et dernier opus de la saga, où on retrouvera un Harrison Ford un peu plus vieux, avec Mads Mikkelsen qui campera le méchant nazi. Encore et toujours, les méchants nazis.
Toujours dans Indiana Jones, c'est toujours les mêmes. Et pour finir, la bande-annonce de Barbie. Bon, il ne nous montre pas grand-chose, mais je sens déjà que je vais aimer Ryan Gosling en Ken.
Tu veux Ken Ryan Gosling ?
Oui.
Les petits cinéphilos, c'est fini pour cette émission. On vous promet de revenir avec moins d'absence que la fois dernière. On essaie de revenir très vite. Et on vous souhaite une agréable soirée et merci de nous avoir écoutés.
Salut les cinéphilos.
Gros bisous.